Sur la bande apparaissait ensuite le distributeur. Et, la caméra opérant un mouvement plongeant, le trottoir couvert de sang. Le cadavre de Cordel s'y étalait à l'endroit même où les infirmiers l'avaient trouvé puis laissé. Plus de chapeau, et sa chemise étant ouverte, c'était sa poitrine pâle qu'on avait filmée. Pendant les quelques minutes suivantes, la caméra avait enregistré diverses séquences de l'enquête. C'était d'abord un technicien qui mesurait et photographiait les lieux du crime. Puis les assistants du coroner qui travaillaient sur le cadavre, l'enveloppant dans un sac en plastique et le déposant sur une civière roulante. Enfin, un autre technicien du laboratoire, et un autre encore, celui-là chargé de relever les empreintes, entraient dans le champ et examinaient les lieux pour récolter plus d'indices. La séquence montrait aussi un spécialiste se servant d'une petite pointe en métal pour déloger la balle qui s'était fichée dans la portion de mur située à côté du distributeur. Et soudain, McCaleb eut droit à un bonus auquel il ne s'attendait pas. Le caméraman s'était mis à filmer les premières déclarations de James Noon. Le témoin a été emmené au bord du terrain appartenant à la banque et, debout à côté d'une cabine téléphonique, il parle à un policier en uniforme. Noon est âgé d'environ 35 ans. À côté du flic, il semble plutôt petit et solidement charpenté. Il porte une casquette de baseball sur la tête. Il est maintenant très agité et semble tout à la fois ému par ce qu'il a découvert et frustré par le cafouillage des ambulanciers. La caméra a été mise en route au beau milieu de la conversation. « Tout ce que je dis, c'est qu'il avait une chance de s'en sortir. »« Oui, monsieur, je comprends. Je suis certain que ce sera une des premières choses qui seront analysées. » Non, ce que je veux dire, c'est qu'on devrait chercher à savoir comment ce truc a pu... Et le pire, c'est que nous sommes, à quoi, moins de 800 mètres de l'hôpital.
Nous en avons conscience, monsieur Noon, lui répond patiemment le policier. Mais ce serait vraiment bien si nous pouvions poursuivre. Avez-vous remarqué quoi que ce soit avant de découvrir le cadavre? Quelque chose qui vous aurait paru inhabituel?
Oui, j'ai vu le type, enfin, je crois.
De quel type me parlez-vous?
Du voleur. J'ai vu la voiture avec laquelle il a filé.
Vous pourriez nous la décrire?
Oui, noir, modèle Cherokee, le dernier, pas celui qui ressemble à une boîte à chaussures.
L'adjoint avait l'air un peu perdu, mais McCaleb comprit que c'était d'un grand Cherokee que Noon était en train de lui parler. Il est vrai aussi qu'il en avait une.
Et Noon reprend ainsi. J'entrais dans le parking quand il a surgi d'on ne sait où, à toute allure. Il m'est presque rentré dedans, un vrai con. J'y ai filé un grand coup de klaxon et c'est en arrivant ici que j'ai trouvé ce type. J'ai appelé avec mon portable, mais tout a merdé.
Oui, monsieur. « Cela vous ennuierait-il de parler autrement? Il n'est pas impossible que cet enregistrement passe au tribunal. »«
Oh, excusez-moi. »«
Revenons à la voiture. Avez-vous vu la plaque d'immatriculation par hasard ?»«
Je ne regardais même pas. »«
Combien de personnes y avait-il dans le véhicule ?»«
Une, je crois, le chauffeur. »«
Homme ou femme ?»«
Homme. »«
Vous pourriez me le décrire ?»«
Je ne regardais pas vraiment. J'essayais juste de ne pas me faire rentrer dedans. »
Blanc, noir, asiatique?
Ah non, c'était un blanc, ça j'en suis à peu près sûr, mais l'identifier, non, je ne pourrais pas.
Et les cheveux, de quelle couleur?
Gris, gris.
L'officier a l'air surpris, un voleur âgé, ça lui paraît inhabituel.
Je crois, oui, dit Noon, mais c'est allé si vite, je ne peux pas l'affirmer.
Un chapeau?
Oui, ça aurait pu en être un.
Que voulez-vous dire, vous parlez du gris?
Oui, voilà, un chapeau gris, ou alors des cheveux, je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude.
« Bon, autre chose, portait-il des lunettes ?»«
Ou bien je ne me rappelle pas, ou bien je n'ai rien vu, je ne le regardais pas vraiment, vous savez. En plus, comme la voiture avait des vitres fumées, la seule fois où j'ai vraiment vu le type, c'était à travers le pare-brise et je ne l'ai vu qu'une seconde quand il me fonçait droit dessus. »«
Bien, monsieur Noon, ça va nous aider. Il va falloir que vous nous fassiez une déposition et les inspecteurs voudront vous parler. Cela risque-t-il de vous poser des problèmes ?»«
Oui, mais qu'est-ce que je peux y faire? J'ai envie d'aider et j'ai essayé. Non, ça ne me gêne pas. »«
Merci, monsieur. » Je vais demander à un officier de vous emmener au commissariat de Palmdale. C'est là que les inspecteurs s'entretiendront avec vous. Ils vous rejoindront dès que possible et je ferai ce qu'il faut pour qu'ils sachent que vous les attendez.
Bon, bien. Et ma voiture?
On vous ramènera ici quand ce sera fini. C'était là que la bande s'arrêtait. McCaleb l'éjecta du magnétoscope et repensa à tout ce qu'il avait vu, entendu et lu jusqu'alors. Le fait que les services du shérif n'aient pas parlé de la Cherokee noire aux médias avait quelque chose de troublant. Il allait falloir en parler avec Jay Winston. Il le nota sur son bloc-notes où il avait déjà inscrit plusieurs questions et reprit les derniers rapports sur l'affaire Cordel. L'inventaire dressé par l'équipe des premières constatations tenait sur une seule page et quasiment blanche. Les pièces à conviction se réduisaient à la douille retirée du mur, à une douzaine d'empreintes digitales retrouvées sur le distributeur et à quelques photographies de traces de pneus qui peut-être appartenaient au véhicule du tireur. On avait inclus l'enregistrement de la caméra vidéo dans la liste. Agrafé au rapport, il vit des photocopies des photos des traces de pneus et un plan fixe pris par la caméra vidéo du distributeur où l'on voyait l'arme que le tireur tenait à la main. Une note du labo précisait que, d'après le technicien de service, les traces de pneus se trouvaient sur l'asphalte depuis au moins plusieurs jours et ne seraient d'aucune utilité pour l'enquête. Un rapport du service balistique affirmait aussi que le projectile était une balle de 9 mm, type munition fédérale légèrement écrasée. Il trouva aussi attaché au compte-rendu la photocopie d'une page du rapport d'autopsie où l'on découvrait un croquis du crâne de la victime vu de haut. La trajectoire suivie par la balle y était clairement tracée. Entrée un peu en avant de la tempe gauche, le projectile avait décrit une ligne droite en tourbillonnant sur lui-même, traversé tout le lobe frontal pour ressortir par la région temporale droite. Le sillon creusé par la balle faisait 2,5 cm de largeur. En l'examinant, McCaleb se dit qu'il n'avait peut-être pas été mauvais que les ambulanciers qui arrivent en retard. S'ils avaient réussi à sauver Cordell, cela l'aurait sans doute condamné à passer le restant de ses jours relié à une machine dans un de ces centres médicaux qui ne sont rien d'autre que de vulgaires hangars à légumes.